Alors je reprends le micro juste pour la transition, mais vous l'avez merveilleusement faite. Hein, donc je vais vous redonner la parole. Juste une précision. On a évoqué naturellement la Fed, la BCE, un peu la Banque centrale chinoise. J'aimerais quelques précisions en ce qui me concerne, concernant la Banque du Japon et notamment dans la gestion de la crise. On a évoqué, enfin, j'ai lu dans le livre de Michel Aguilleta, le rôle particulier de la Banque centrale d'Espagne, notamment par un rôle de supervision tout à fait différent qui a évité, notamment au niveau bancaire, je dirais, des conséquences aussi dramatiques que dans les autres systèmes financiers.
Vous répondez sur cette question-là et ensuite...
Oui, donc ce qu'il y a, c'est que la Banque d'Espagne a gardé la supervision, des banques. Et en conséquence, elle a empêché, enfin, elle a dit aux banques, si vous voulez faire de la titrisation, des éléments du même style qu'aux États-Unis, c'est-à-dire vous débarrasser des crédits, bon, vous pouvez le faire, mais vous aurez à mettre autant de capital que si vous gardiez les crédits dans vos bilans. Ce qui veut dire que la titrisation devenait inintéressante, hein, puisqu'elle a été faite pour évader, justement, hein. Pour évader la constitution du capital en face pour garantir les risques des crédits. Et c'est ce qui a entraîné l'explosion. Hein. L'explosion du crédit a été dans ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire ailleurs que dans les banques commerciales. Donc ça ne s'est pas fait en Espagne. Et donc ils ont été, quand la crise est arrivée, ils ont eu, si vous voulez, des matelas de capital suffisamment importants. Les crises se sont trouvées dans le secteur qui n'était pas sous la responsabilité de la Banque centrale, c'est-à-dire dans les caisses d'épargne espagnoles, qui, elles, n'étaient pas des banques, et qui ont fait du crédit elles-mêmes, si vous voulez. Donc c'est un premier élément. Et deuxième élément, quand même, c'est que ça n'a pas empêché la crise immobilière en Espagne. Donc ça n'a pas empêché l'expansion du crédit. Les banques espagnoles ont pu faire gros dos et, a priori, ne sont pas tombées dans des situations dramatiques. Mais au niveau macroéconomique, la bulle du crédit s'est faite quand même.
Bien. Donc je redonne la parole à Jean-Paul Paulin pour la partie régulation financière.
On continue.
Ok. Alors, je reviens en une minute sur l'histoire Greenspan, parce que, au fond... j'ai démarqué Greenspan des fautes dont l'accuse. J'avais dû écrire d'ailleurs un article qui devait s'appeler quelque chose comme « Pour une révision du procès fait à Alan Greenspan ». Greenspan, je pense, a très bien conduit sa politique monétaire. En revanche, il a eu complètement tort sur tout ce qui est en effet réglementation et même... on a été jusqu'à dire qu'au fond, Greenspan avait dealé avec le lobby bancaire, en ce sens qu'il a soutenu les banques dans plein de leurs revendications. C'est quand même sous Greenspan que s'est fait, la fin du glass, le démantèlement du glass Steagall Act. Et en effet... parce que Greenspan, il l'a reconnu d'ailleurs, il continue à défendre sa politique monétaire. Par contre, il dit, au fond, le monde des marchés financiers ne fonctionne pas comme je le pensais, quoi. Finalement, il y a des crises, il y a des déséquilibres, et tout ça ne s'auto-régule pas. Et en effet, de ce point de vue-là, il a eu tout faux. Mais que l'on accuse Greenspan de la déréglementation qu'il a faite, que l'on accuse Greenspan de ne pas s'être intéressé à la régulation micro et macro-prudentielle, mais du côté de sa politique monétaire, je crois qu'il a fait le job, enfin, il a rempli la mission qu'on lui avait confiée. Donc, en effet, les banques centrales, à l'avenir, s'intéresseront plus au micro-prudentiel et au macro-prudentiel. Il y aura une vraie difficulté quand même à dissocier les deux choses. Et je trouve qu'il est tout à fait heureux que l'on reconnaisse aujourd'hui que le micro-prudentiel, je ne vais pas dire doit appartenir aux banques centrales, mais en tout cas, les banques centrales doivent avoir leur part de responsabilité dans non seulement la définition, mais la gestion du micro-prudentiel. Cela dit, c'est vrai que concernant la stabilité financière, c'est de macro-prudentiel dont on parle. Et le macro-prudentiel, ça pose effectivement au moins deux types de questions. D'abord, la question des instruments. Qu'est-ce que c'est quels sont les instruments du macro-prudentiel? Alors, vous savez, le macro-prudentiel, il y a deux, on distingue généralement deux dimensions. Il y a la dimension dite transversale, c'est-à-dire que faire, enfin comment on faire avec les établissements qui sont dits systémiques, c'est-à-dire les établissements too big to fail, ou on dit encore aujourd'hui aussi too interconnected to fail, c'est-à-dire les établissements qui, même s'ils ne sont pas très grands, sont en connexion avec d'autres établissements et donc sont susceptibles, style Lehman, d'entraîner dans leur chute d'autres établissements, ou a fortiori AIG. Donc, il y a cet aspect risque systémique, dont on parle plus, d'ailleurs, j'observe, aux États-Unis qu'en Europe. J'ai entendu dire, et d'ailleurs Bernard Sinmer était présent, de la part de l'Association professionnelle des banques, le too big to fail n'existe pas. Enfin, ça n'est pas un problème. En France, on considère que le too big to fail, c'est pas fait pour nous. Alors qu'au contraire, aux États-Unis, ils ont beaucoup discuté sur cette question, notamment comment mettre en liquidation ces banques too big to fail, ou faire en sorte que la liquidation de grands établissements ne pose pas trop de difficultés. Et puis on parle de mettre des fonds propres supplémentaires pour les établissements systémiques, et on parle aussi, et on fait depuis longtemps aux États-Unis des contrôles prudentiels beaucoup plus stricts sur les grands établissements que sur les établissements moyens. Donc ça, c'est l'aspect transversal, comme on dit, et puis il y a l'aspect intertemporel, c'est-à-dire en fait la cyclicité du crédit. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas des booms et des busts dans le crédit, comment faire pour raboter, lisser l'évolution du crédit, et ceci renvoie à le provisionnement dynamique, la constitution de stocks de précaution de fonds propres, à la modulation des fonds propres dans le temps, etc. Ceci renvoie aussi à des choses plus particulières, mais probablement plus efficaces, qui est par exemple la maîtrise du loan to value, c'est-à-dire, vous savez, la proportion de prêts accordés en relation avec l'investissement que vous faites, enfin, mettons, la proportion de crédit que vous acceptez de faire par rapport à la valeur de l'appartement, par exemple, que vous achetez, qui serait un instrument sans doute très efficace, qui nous intéresse à nous en Europe, parce qu'il pourrait sans doute être différencié d'un pays à l'autre, ce qui rendrait la politique monétaire plus adaptée aux différents pays, alors qu'aujourd'hui elle a un aspect homogène par rapport à des pays qui ne sont pas dans les mêmes situations. Donc comment définir ces instruments, premièrement, et ensuite comment les manier? Comment les manier? Alors, on retrouve ici exactement le même problème que celui dont on discute en politique monétaire. Faut-il des règles ou faut-il laisser à la discrétion des banques centrales le soin de fixer ces instruments en fonction de ce qu'elles voient, de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles estiment? Les règles ont beaucoup d'avantages. On nous a convaincus que s'en tenir à des règles, ça pouvait d'une part rendre les banques centrales plus crédibles. Les banques centrales sont d'autant plus crédibles qu'elles sont d'autant plus indépendantes, capables de garantir leur indépendance, qu'elles sont transparentes. Les règles, accessoirement, permettent de résoudre le problème dont parlait Pierre, rendre compte. rendre compte, il ne suffit pas de venir parler devant le Parlement. On peut parler devant le Parlement européen pendant très longtemps sans dire quoi que ce soit de significatif. Sans règle, on peut justifier n'importe quelle décision. En revanche, il faut une grille de lecture pour justifier d'une politique et pouvoir la lire et la relire. Et donc, sans doute, rendre compte, ça suppose que l'on fixe des règles. D'autre part, la transparence, ça probablement éviterait ce qu'on appelle la capture du régulateur, c'est-à-dire le fait que si vous n'êtes pas capable de mettre des règles sur la table et de dire « je ne fais qu'appliquer les règles », vos décisions seront toujours contestées. Imaginez ce que aurait été la réaction de l'opinion publique en Espagne si, il y a 4 ou 5 ans, un peu plus peut-être, la Banque Centrale Européenne avait dit « eh bien, nous allons limiter le crédit immobilier en Espagne ». Ça aurait été évidemment une levée de bouclier et ça aurait été très difficile à obtenir. Alors que s'il y a une règle qui dit que si eh bien, le crédit augmente de plus de 10% par rapport au PIB, par rapport au PIB, si le taux d'endettement dérive trop, eh bien, on agira par exemple par le loan to value, ou on mettra des réserves obligatoires plus importantes sur ce type de crédit. Si la règle existe, si elle a été fixée, affichée, eh bien, c'est évidemment beaucoup plus facile. Quand les règles sont claires, les acteurs, en l'occurrence les banques, peuvent s'y adapter, peuvent réagir en fonction et anticiper ce que va être la réaction de la Banque centrale, et ceci stabilise le système. On pourra rajouter l'argument de la coordination. C'est vrai que quand il y a des règles, la coordination internationale, notamment, est probablement plus facile. Cela dit, établir des règles en ce domaine, c'est sans doute très difficile. Fixer un objectif déjà de stabilité financière, la régulation macroéconomique, c'est simple. Je ne veux pas que l'inflation dépasse tant. Je ne veux pas qu'il y ait une baisse de l'activité économique à partir du moment où la Banque centrale peut le gérer. Donner un objectif de stabilité financière, c'est infiniment plus difficile. Je ne sais pas comment exactement définir la stabilité financière. Et donc, fixer des règles, c'est sans doute trop rigide, trop restrictif. Du coup, question, et c'est une question notamment à Pierre, comment est-ce qu'on pourrait, dans le cas de la politique macroprudentielle, faire parler, comme on le fait pour la politique monétaire, de discrétion contrainte.
Voilà. Très bien, je n'ai pas grand-chose à faire, puisque les transitions se font naturellement entre les intervenants. Juste une précision, avant de répondre à la question, peut-être effectivement préciser la nature des changements qui vont intervenir et qui sont déjà intervenus en matière de régulation financière, notamment pour les banques centrales. Hein. En quoi leur rôle s'accroît? En quoi ont-elles des pouvoirs nouveaux?
Des pouvoirs qui inquiètent fortement Jean-Paul, j'ai remarqué. Je vais essayer de leur rassurer. Beaucoup de choses ont été dites déjà, et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des ajustements entre les deux premiers sujets. Très rapidement, d'abord, Michel a eu tout à fait raison de bien distinguer entre les instruments conventionnels et non conventionnels. Non conventionnels, on appelait ça à un moment non orthodoxe, au sens où ça n'avait jamais utilisé. Il faut savoir qu'on est un peu une terra incognita sur ces sujets-là, et en particulier sur les canaux de transmission, puisque effectivement, Jean-Paul a tout à fait raison de le souligner. Normalement, dans la version classique, la politique monétaire, c'était gérer le taux court sur le marché interbancaire, avec la conviction, sinon l'illusion, qu'il y aurait, de façon, dans le cas de marché efficient, une influence sur l'ensemble de la courbe des taux, et donc on pourrait de cette façon influencer à la fois simultanément la demande de monnaie, la demande de crédit, et finalement l'équilibre entre les temps de choix des portefeuilles. Alors ça, c'est vrai que ça ne marche pas, parce qu'on est effectivement, en particulier au début de la crise, dans le cadre où, un, on a dû mettre les taux à zéro et donc on n'a plus de marge, et deux, les mécanismes de refinancement sont complètement grippés, et trois, ce qui est peut-être encore plus grave, les marchés eux-mêmes ne fonctionnent plus. Et donc il a fallu effectivement trouver des instruments qu'on appelait non conventionnels, mais qui étaient un petit peu des instruments de dernier ressort d'une certaine manière, c'est-à-dire ceux qu'on n'avait pas osé utiliser peut-être, ou qu'on n'avait pas imaginé oser auparavant. Et en même temps, on voit bien que du point de vue des mécanismes de transmission, on passe dans des systèmes qui étaient complètement nouveaux, qui n'ont pas été appris dans les meilleurs manuels, y compris ceux qui ont été écrits par mes voisins dans les années 80 ou 90 ou même 2000. C'est-à-dire qu'on est allé soit par ce qu'on appelait le credit easing ou le quantitative easing, mais je crois que la distinction maintenant est un petit peu, elle est plus très claire. Quantitative easing, c'est-à-dire qu'on est allé acheter directement, les banques centrales, en particulier certaines d'entre elles, sont allées acheter directement des titres sur les marchés, d'une certaine manière, en faisant une espèce de raccourci, d'une certaine manière, pour éviter que la finance intermédiaire, qui ne fonctionne pas, ne réduise pas les chances de la reprise. C'est-à-dire qu'en fait, on est allé chercher à financer directement les marchés par les banques centrales pour éviter le grippage des mécanismes d'intermédiation. D'une part, et d'autre part, on est allé chercher également à modifier les arbitrages de portefeuille, comme l'a dit Michel, et réduire les primes de risque. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Alors quand on regarde, évidemment, le problème, c'est de dire comment ça va marcher, et est-ce que ça va être efficace. Et là, il y a un vrai débat actuellement. Je suis très intéressé, par exemple, de regarder aux États-Unis, lisez le FT, le Wall Street Journal, il y a un vrai débat dans la communauté américaine, académique, mais aussi institutionnelle, et qui va de Metzer, qui est un monétariste assez classique. Michel me demandait tout à l'heure s'il existait encore, je pense que oui, la preuve il écrit, jusqu'à Stiglitz ou d'autres, ou Krugman ou Raghuram, donc qui sont des économistes complètement différents, et tous actuellement posent la question finalement qui est de dire certes ça peut être efficace. On sait par exemple, ça a été testé par la Fed de New York, que 300 milliards, c'est dans le cadre du quantitative easing 1, 300 milliards d'achats du bon du trésor, ça a conduit grosso modo, d'après le test économétrique, à un effet sur les taux à long terme de l'ordre de 30 à 50 points de base. Mais c'était dans une configuration où les taux étaient encore plus élevés, en tout cas sur les taux à long terme qu'aujourd'hui. On est à un niveau historiquement bas. Donc la question, est-ce que ça va jouer encore? On ne sait pas. On sait également, et ces mêmes économistes mettent en évidence un certain nombre de risques, par exemple, sur, évidemment, l'ancrage anti-inflationniste, sur le fait qu'il peut y avoir des enjeux en termes de crédibilité, sur le fait qu'il y a aussi un problème de bilan et de réversibilité. Le Fed américain va avoir, à l'issue de toutes les opérations du quantitative easing 2, 1700 à 1800 milliards de dollars de bons du trésor à son bilan. Et donc, imaginons effectivement qu'il y a un retournement brutal à des conditions des taux d'intérêt, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il porte un risque absolument énorme. On sait bien qu'au bout du compte, le principal actionnaire des banques centrales, c'est l'État, donc c'est l'État qui porte lui-même ce risque. On sait que derrière ça, il y a les problèmes de coopération, non-coopération internationale, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un point important, effectivement. Est-ce que l'agenda caché, on n'espère pas, mais on ne pense pas, c'est pas, d'une certaine manière, l'échange, ou les taux de change. Et enfin, il y a un problème d'inefficacité qui boucle avec le problème de la crédibilité. C'est-à-dire que si, effectivement, ça ne marche pas, eh bien, dans ce cas-là, on va se retrouver avec encore moins de munitions qu'auparavant, et une crédibilité qui sera fortement amoindrie. Donc, il y a des vrais enjeux, je dirais. Il faut être conscient de ça, et je pense, d'ailleurs, les responsables en sont tout à fait conscients. Alors, deuxième point, je pense qu'il faut clarifier ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les instruments non conventionnels de la politique monétaire, des aspects macroprudentiels. Ces deux sujets différents. Et comment définir le macroprudentiel ? Alors, ça, c'est un vrai sujet. Alors, je pense que Michel, en particulier, mais Jean-Paul aussi, ont écrit énormément là-dessus. Mais si je voulais être extrêmement simple, je crois que l'idée, c'est quoi ? C'est de prévenir le risque systémique et gérer les crises de façon coordonnée. Il y a une observation assez simple qui a été faite souvent pendant la crise, qu'on peut avoir des banques qui individuellement paraissent ou sont en bonne santé, et un système qui globalement, collectivement, est en risque extrême. Et donc là, on touche le cœur du risque systémique, qui est que la supervision microprudentielle ne suffit pas. Il faut avoir une supervision macroprudentielle. Et cette supervision macroprudentielle, à mon avis, elle repose sur trois piliers. Le premier, c'est l'information, les échanges d'informations qui, pour le moment, sont imparfaits. C'est-à-dire qu'il faut effectivement arriver à rassembler de façon cohérente les informations pertinentes qui permettent précisément de prévenir et de gérer les crises. Et ça, ça a l'air facile comme ça, mais ne serait-ce qu'avoir des informations et de bien les traiter par des gens compétents et arriver à les mettre sous le nez des responsables, en soi, c'est déjà un travail. Deuxième chose, le diagnostic. Et le diagnostic, c'est extrêmement difficile. Comme l'a souligné Jean-Paul, même Ben Bernanke, qui était dans les années 90, opposé, par exemple, une intervention des banques centrales sur les prix d'actifs, avec un des arguments, ce n'était pas le seul, mais un des arguments, c'est de dire en quoi les banques centrales sont plus compétentes que les marchés pour définir ce qu'est le bon niveau, le niveau optimal de prix d'actifs. Alors, c'est un vrai débat, parce que finalement, on peut dire qu'elles ont plus d'informations, et elles sont responsables du fait que si effectivement il y a une crise sur ces prix d'actifs, elles seront redevables, et on retombe sur le problème de accountability. Mais malgré tout, il y a un vrai sujet, et faire le diagnostic de risque de crise, on l'a vu, c'est extrêmement difficile. Et puis, un troisième pilier, qui est celui des instruments. Il y a sans doute deux types d'instruments. Il y a des règles prudentielles globales, qu'on a déjà évoquées. C'est le cas des instruments qu'on appelle BAL 3, c'est-à-dire qui vont permettre, par exemple, de façon harmonisée, de faire en sorte que les systèmes bancaires dans le monde réagissent au même type de discipline prudentielle, et notamment aux mêmes contraintes en capital, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On peut imaginer, et c'est imaginé, ça va être d'ailleurs mis en place, des règles de provisionnement dynamique, ou ce qu'on appelle des buffers, de façon un peu à l'image de ce qui a été fait dans le cas de la Banque d'Espagne qu'on a évoqué tout à l'heure, mais de façon plus généralisée et sans doute plus efficace et de façon plus coordonnée, avoir ce genre d'instrument. Et puis il faut des règles spécifiques, Jean-Paul les a évoquées, c'est les loan to value, c'est les debt service to income ratio, etc. C'est-à-dire des règles qui, à côté des instruments de politique monétaire, permettent d'affiner et parfois même, je dirais, de spécifier davantage des situations nationales. Je pense en particulier dans le cadre de la zone euro, où évidemment on ne va pas revenir à des politiques nationales. Évidemment, on ne peut pas avoir des taux d'intérêt directeurs qui soient spécifiés pour les différents pays de la zone. C'est très difficile d'avoir aussi, je pense, des réserves obligatoires, puisque dans ce cas-là, on se retrouve en face de risques d'arbitrage réglementaire. En revanche, on peut effectivement avoir ce type de ratio. Si dans un pays, contrairement à un autre, et je pense que c'est le cas, puisqu'on est effectivement en face de ce type d'hétérogénéité, on a des dérèglements de marché spécifiques nationaux, par exemple sur l'immobilier, vis-à-vis desquels la politique commune est complètement inefficace. Alors, par rapport à ça, et je ne vais pas être beaucoup plus long, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, qui vont bientôt rentrer en œuvre. C'est, par exemple, la création d'un comité européen de risque systémique dont le siège sera à Francfort, qui sera présidé au moins dans un premier temps par le président de la BCE, mais où seront présents tous les acteurs principaux du domaine financier. Évidemment, les trésors, les ministères des Finances, et c'est extrêmement important. Ça répond en partie à la remarque de Jean-Paul qui est de dire qui est responsable et qui est accountable vis-à-vis de ça. Évidemment que dès lors qu'il y aura des mesures, en particulier nationales, qui d'une certaine manière ou d'une autre vont impacter les conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union européenne ou seront fiscales ou parafiscales, les ministères des Finances doivent être intégrés ou en tout cas associés à la décision. Mais ça doit être fait dans le cadre d'une décision elle-même harmonisée qui, je le répète, soit basée sur un diagnostic commun, sur des échanges d'informations. Et puis il y aura également un comité européen de supervision qui réunira des agences dans le domaine de la supervision des banques, des assurances, des marchés. Et ça, ces deux comités, il y aura deux piliers. Il y aura un pilier de supervision microprudentielle complètement harmonisé dans lequel les échanges seront optimisés. Et de l'autre côté, il y aura un comité européen de risque systémique qui aura, lui, une vocation macroprudentielle et auquel, évidemment, seront intégrés, outre les superviseurs, outre les banques centrales, les responsables politiques.
Démarrage le 1er janvier ?
Démarrage, en principe, début 2011.
Alors, Michel Lieta, la supervision, la régulation des banques centrales.
Dans le cadre de cette vision des banques centrales s'occupant de la stabilité financière, on n'est plus dans le domaine de la science, mais dans le domaine de l'art. Hein. On a dit qu'un banquier central est plus un artiste qu'un scientifique, dans la mesure où on est dans un monde d'incertitude et où le jugement est véritablement crucial. C'est pourquoi il est quasi impossible d'avoir des règles dans ce domaine-là. Je vous donne un exemple de l'efficacité de mettre un prix de plancher sur des prix d'actifs dans certaines situations. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le dire systématiquement, parce que là, on crée un aléa moral formidable. Les banques centrales vont mettre des prix planchers sur tous les prix d'actifs en toutes circonstances. C'est le cas de Hong Kong en octobre 1997, où les hedge funds ont monté une attaque coordonnée à la fois sur les actions et sur le dollar de Hong Kong pour faire sauter son ancrage vis-à-vis du dollar des États-Unis. Le montage était extrêmement habile et a priori imparable, hein, parce qu'en vendant à découvert les actions, ils obtenaient les ressources qu'il fallait pour, donc sans coût, hein, les ressources qu'il fallait pour pouvoir ensuite attaquer la monnaie. Donc ils faisaient une double attaque et ils finançaient l'attaque de la monnaie par le gain qu'ils faisaient grâce à la baisse des actions qu'ils provoquaient eux-mêmes. Et donc ils pensaient qu'il n'y avait pas de parade possible. Qu'est-ce qu'a fait l'autorité monétaire de Hong Kong ? C'est d'acheter massivement les actions. Donc on est bien plus loin encore que d'acheter des obliques d'État, hein. Ils ont acheté massivement les actions, ont cassé la spéculation, ont fait perdre, ont fait des pertes considérables chez les hedge funds, et le résultat est un résultat essentiel, puisque c'est la place financière de Hong Kong comme pivot en Asie, enfin disons que les enjeux systémiques étaient cruciaux. Donc, vous voyez qu'il y a des cas où, en effet, c'est tout à fait important d'étendre la fonction des banques centrales au marché financier. Mais évidemment, on ne peut pas en faire une règle, ça n'a pas de sens. Alors, le macroprudentiel, par conséquent, c'est bien ça, c'est s'occuper de la stabilité financière, la considérer comme un bien public. Si c'est un bien public, ce qui est le bien public, c'est d'éviter le risque systémique. Si c'est un bien public, ça veut dire que ce n'est pas un seul acteur qui peut s'en occuper. Et en effet, ce qui a été mis en place, hein, disons plus nettement aux États-Unis, c'est un conseil de risque systémique. Le conseil de risque systémique, il a la Banque centrale, mais il a les différents régulateurs qui ont un point de vue fin sur ce qui se passe dans les marchés. Régulateur de banque, régulateur des marchés dérivés, régulateur des marchés, parce qu'ils ont aujourd'hui aux États-Unis séparés, régulateur des marchés spot, hein, d'obligations d'action, etc. Le régulateur des banques, dans un même comité, présidence du Trésor, c'est-à-dire c'est une présidence d'État. Et donc la position de la Banque centrale dedans apparaît comme une entité opérationnelle, jouant un rôle d'implémentation, enfin jouant un rôle essentiel, on va voir lequel. On en a déjà parlé, mais je vais aussi confirmer pour mon point de vue lequel. Mais les responsabilités ultimes d'action de masse, en quelque sorte, pour bloquer le risque systémique, eh bien, sont sous la responsabilité du Trésor, c'est-à-dire là où elles doivent être. Donc, ça me paraît très important, c'est-à-dire que pour faire de la stabilité financière, il faut constituer le mode de gouvernance qui permet justement cette fameuse accountabilité. Il faut que chacun ait sa responsabilité partielle dans l'ensemble qu'est le Conseil. Alors, sur cette base-là, quel peut être le rôle de la Banque centrale ? Moi, je pense que la régulation macroprudentielle, c'est un truc à deux étages, hein. Il y a un étage qui est, il faut avoir un point de vue contracyclique en termes d'évolution du crédit pour au moins modérer le cycle financier, c'est-à-dire les hausses euphoriques de prix d'actifs. Au moins les modérer. Et ça, ça implique en effet d'avoir une certaine, disons, information et analyse sur la dynamique divergente entre l'augmentation des leviers de crédit et la hausse des prix d'actifs. Bon, quand il y a un éléphant, on le voit même si on ne sait pas le définir, moi j'ai l'impression. C'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé notamment, quand vous avez à la fois le crédit qui, dans certains marchés, s'accroît à une vitesse d'accélérer et dérive par rapport au PIB, comme ça n'a jamais été fait depuis qu'on a l'histoire après la guerre. Hein. Donc, je vous dis, par exemple, je n'ai pas donné beaucoup de chiffres ici, mais si le rapport crédit sur crédit du secteur privé sur PIB aux États-Unis, entre 1950 et, je crois, attendez, c'est 1985, ne bouge pratiquement pas. Disons, il augmente de 125 à 150%. Du début des années 90 jusqu'à la crise, il passe de 150 à 350%. Donc il y a bien un changement radical du régime de crédit. Tout le monde pouvait le voir, ça. Si vous voyez en même temps que le crédit s'accroît massivement, les spreads de crédit diminuent, au lieu d'augmenter, ce qui s'est passé dans les années 2000. Si le crédit s'accroît beaucoup, ça veut dire qu'on prend plus de risques. Toute la théorie financière le sait. Donc, les spreads doivent monter en même temps que le crédit augmente en volume. Ils se sont écrasés. Vous avez eu donc la hausse des dettes par rapport aux revenus. Vous avez une hausse très forte des dettes par rapport aux revenus des ménages. En même temps, vous avez une baisse de la hausse par rapport à la valeur des actifs. Donc, vous avez une contradiction très forte. Ça veut dire que ce n'est pas la valeur fondamentale qui était dans les prix d'actifs. Donc, vous voyez qu'avec un recoupement d'un ensemble d'indicateurs, finalement relativement simple. On peut déjà avoir un premier niveau pour se dire, la Banque centrale peut avoir un premier niveau pour se dire, attention, il y a un doute. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire s'il y a un doute? Ben, elle doit faire ce qu'elle a fait a posteriori, elle doit le faire a priori. C'est-à-dire faire des tests de stress qu'elle organise elle-même, macroéconomiques, suivant des scénarios qu'elle définit, aux banques. Et à ce moment-là, elle voit où ça en est dans le système bancaire. Donc ça veut dire qu'il y a une panoplie peut-être d'outils qui vont en croissance, en quelque sorte, en termes d'inquiétude. On met les outils les plus compliqués lorsqu'on est déjà très inquiet, et à ce moment-là, on peut voir où se trouve le risque dans le système. Vous voyez, donc, il me semble que la Banque centrale, c'est ça qu'elle a à faire. Ensuite, si on considère que c'est du loan to value, et si on considère qu'il faut mettre du capital aux banques, mettre du capital aux entités systémiques, donc le rôle du Conseil, c'est de définir les entités systémiques. La Banque centrale ne peut pas le faire toute seule, mais l'organisme de régulation bancaire, celui qui sur les marchés voit comment les hedge funds prennent des positions, ou comment les banques d'affaires financent les hedge funds par des dérivés de crédit, l'ensemble peut prendre un point de vue beaucoup plus large que la Banque centrale toute seule. Et à ce moment-là, eh bien, la Banque centrale peut définir le montant de capital qui est requis, en fonction donc des indicateurs macro. Et ensuite, il faut savoir le répartir sur les banques en fonction de leur importance systémique. Et à ce moment-là, c'est le rôle des régulateurs de marché et c'est le rôle des tests de stress de dire, ben voilà, à tel endroit, il y a véritablement des positions extrêmement dangereuses par rapport à un manque de capital. C'est plus sur cette banque-là que sur celle-ci, il faut le mettre. Mais donc on fait du contracyclique macro et en même temps, on le module pour tenter d'éviter le risque systémique. Voilà un peu, si vous voulez, la panoplie, me semble-t-il, des mécanismes qui pourraient se mettre en place.
Comme l'heure avance, Michel, est-ce que vous pouvez embrayer directement sur la troisième partie, c'est-à-dire
l'international.
Je vous rends tout de suite la parole. Je vais laisser un peu de temps si tu as quelques questions, évidemment.
Alors, l'international, oui, alors là, ça complique évidemment beaucoup les choses. Ce qui se passe, c'est que on a vu que la politique des banques centrales a une double séparation. La première, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire s'occuper que des valeurs nominales de l'inflation. La deuxième séparation, c'était de dire chacun est maître chez soi. C'est-à-dire que les politiques sont séparées. Et pourquoi on peut le faire? Parce que les taux de change se débrouillent ensuite pour relier les pays les uns aux autres. C'est-à-dire, si moi je mène une politique plus stricte que mon voisin,
eh bien, son champ va se déprécier par rapport au mien, et puis, de toute façon, l'ensemble fonctionne par décentralisation grâce au marché, encore une fois. Ce qui suppose, évidemment, le marché, ces types de marchés parfaitement efficients. Or, ce n'est pas le cas qui s'est passé. Quels sont les éléments importants qui prouvent qu'il faut faire quelque chose de coordonné? Eh bien, l'inflation a donc baissé partout, ce qu'on a dit. Mais quand on étudie quels sont les facteurs de l'inflation, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une composante commune qui l'emporte largement. C'est-à-dire que vous avez environ 80% du taux d'inflation qui est commun à tous les pays. C'est la conséquence de la globalisation, bien sûr. Et donc, si la composante est commune à tous les pays, le fait de mener des politiques séparées n'est pas optimal. C'est un élément de coordination. Et la deuxième chose aussi qui apparaît, alors si en plus on le met avec ce qu'on a dit sur le problème macroprudentiel, c'est que la dérive du crédit a été généralisée, pas seulement américaine, hein, je citais seulement les chiffres américains, et qu'on s'aperçoit que tous les marchés d'actifs sont extraordinairement corrélés, et leur corrélation a monté dans le temps. Car maintenant, les bourses croissent et plongent très facilement en même temps, la plupart du temps. Donc, ça pose évidemment un problème fondamental dans ce type d'environnement, d'avoir des politiques qui sont séparées. Le deuxième élément qui rend les choses, dysfonctionnelles, c'est qu'alors que qu'on a ce type d'interdépendance, les marchés rendent les pays très interdépendants, eh bien, les politiques qui ont été menées sont polarisées en même temps. Elles n'ont pas été seulement séparées, mais polarisées. C'est-à-dire que les pays occidentaux, en effet, ont mené des politiques internes d'inflation, prenant plus ou moins en compte la croissance, hein, mais ils ne sont pas préoccupés du change. Au contraire, les pays émergents, qui sont intégrés avec les autres, eh bien, eux s'occupent essentiellement du change. Résultat, ce qui s'est passé, c'est que la liquidité qui a été créée pendant toute cette période où le crédit s'est développé, elle s'est retrouvée dans les réserves de change des pays émergents. Et donc, ce qui a cru le plus sur le plan de la liquidité, c'est la liquidité mondiale, cette espèce de la base monétaire du monde, si vous voulez. Hein. Si vous prenez la somme des passifs monétaires de toutes les banques centrales du monde, vous avez la base monétaire du monde. Eh bien, elle est extraordinairement corrélée jusqu'à la crise avec l'accroissement des réserves de change. C'est-à-dire qu'en réalité, les banques centrales occidentales ont perdu le contrôle des conséquences de leur politique monétaire. Et aux États-Unis, ça s'est vu très bien. C'est que lorsque la Fed, parce qu'on dit que la Banque centrale des États-Unis n'a pas monté ses taux d'intérêt, elle l'a commencé assez tard, elle a commencé en mai 2004. Mais entre mai 2004 et puis la crise, elle les a montés quand même de 1 à 5,25 %. Quand même pas mal. Pendant ce temps-là, les taux longs n'ont pratiquement pas bougé. Ce qui veut dire que la relation habituelle, c'est ce que Greenspan a appelé l'énigme des taux longs. L'énigme, elle vient de ça. Elle vient du fait que la constitution de la liquidité internationale a totalement échappé au contrôle de la politique monétaire nationale. Et c'est la liquidité mondiale qui a favorisé, bien sûr, la formation des différentes bulles et le financement sans coût quasiment de l'économie américaine, en particulier par la réserve chinoise. Donc, voyez ce qui se passe, hein. C'est-à-dire qu'il se passe manifestement un type d'interdépendance qui ne peut plus être maîtrisé par les doctrines que nous avons. Et donc, ça, c'est la grosse interrogation, en effet. Est-ce que cette dimension-là du problème, que pour l'instant, les banquiers centraux cherchent à nier, véritablement, hein, car ça les engage dans un deuxième type de changement. Le premier, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire il faut prendre en compte la stabilité financière, le crédit, etc., des choses qui amène à une première modification des politiques monétaires, mais maintenant, il y a le problème de l'interdépendance globale, qui est une interrogation considérable.
Merci Michel. Alors peut-être brièvement, pour laisser un temps pour les questions, car nous sommes tenus par un horaire strict, Pierre Jaillet, la vision un peu internationale, qu'en pense la Banque de France, la BCE et peut-être l'ensemble du système.
Non, très rapidement, je crois qu'il y a trois sujets. Le premier qui est en relation...
Trois sujets.
Le premier, c'est en relation avec les dernières décisions sur le quantitative easing. On y a déjà fait allusion, donc je ferai peut-être moins d'une minute. Il faut éviter effectivement d'émettre des signaux qui seraient non coopératifs. dans le domaine de la politique monétaire, y compris en particulier lorsque les signaux de politique monétaire concernent des mesures non conventionnelles dont les effets en termes de transmission du mécanisme sur l'économie sont peu clairs. Donc il faut faire extrêmement attention parce qu'effectivement, il y a un vrai risque, surtout dans une période de sortie de crise où on sait qu'il y a d'extrêmes fragilités, à la fois bien sûr dans les systèmes financiers et bien sûr dans les économies, qu'on n'a pas besoin en plus de ça d'avoir une crise de change. Je crois que toutes les banquiers, j'espère, que les banques centrales sont complètement conscientes de ça. Il y a un deuxième sujet qui est celui de la coordination en matière de régulation financière et plus généralement de macro-prudentielle. Là, le sommet de Londres, qui était le sommet du G20, a défini un agenda qui était assez large et qui définissait en particulier tout un champ de coordination ou de renforcement de la coordination, à la fois dans le domaine des règles comptables, de la régulation financière, de la supervision bancaire, des rémunérations, des compensations sur les marchés, des juridictions non coopératives, etc. Donc ça, c'est tout un ensemble de sujets qui actuellement sont traités dans un forum, le G20, que vous connaissez tous, auquel il ne faut pas trop apporter, je dirais, plus qu'il ne peut donner, mais qui malgré tout a joué un rôle important dans la crise, avec l'aide évidemment du Fonds monétaire international, du Forum de stabilité, du Conseil de stabilité financière, etc. Et donc là, c'est quelque chose qui est en train. Il va y avoir à la fin de cette semaine une réunion à Séoul des sommets du G20 qui doit justement prendre acte de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait, de ce qu'il faudra continuer de faire, notamment dans le cadre de la présidence française qui aura lieu en 2011. Troisième sujet, troisième minute, coordination macroéconomique, et précisément on revient au G20. Je pense que c'est un exercice beaucoup plus ambitieux, et qui est celui de ce qu'on appelle le cadre pour une croissance durable, forte et équilibrée. L'idée, c'est quoi? C'est d'éclairer un petit peu ce qui n'a jamais été fait dans le cadre de la coordination macroéconomique et financière jusqu'à présent, l'avenir, de façon à prévenir, d'abord identifier des déséquilibres sous forme, par exemple, de convergence, de divergence accrue dans le domaine des surplus et des déficits de balance de paiement, de façon à pouvoir, de façon coordonnée, en tout cas collective, discuter des mesures appropriées pour réduire ces déséquilibres. Donc, à nouveau, c'est un exercice ambitieux qui sera à nouveau poursuivi dans le cadre de la présidence française en 2011, mais qui annonce une coopération beaucoup plus forte et dans le domaine qui ne soit pas uniquement réglementaire.
Trois minutes aussi. Trois minutes.
Alors, d'abord sur la question de la politique monétaire au sens strict du terme. C'est vrai que beaucoup de pays sont passés à une stratégie de ciblage de l'inflation, aussi bien des pays développés que des pays en développement, et que le ciblage de l'inflation, cette stratégie de ciblage de l'inflation, implique la flexibilité des changes. Or, en effet, on observe que dans les pays émergents, les pays ne suivent pas cette règle. Ils continuent, en fait, à cibler les taux de change en même temps qu'ils ciblent l'inflation. Et par conséquent, il y a une rigidité des taux de change qui fait que le système globalement n'est pas cohérent. On a parlé du ciblage de l'inflation comme d'une sorte de Bretton Woods à l'envers. C'est-à-dire que Bretton Woods, l'échange étant fixe, il fallait fatalement une coordination. Le ciblage de l'inflation était supposé nous affranchir de cette contrainte. En réalité, il n'en est rien, d'abord parce que tout le monde ne fait pas du ciblage de l'inflation, et ensuite parce que même ceux qui en font, ne joue pas le jeu du fait de la peur du flottement, pour reprendre une expression célèbre. Donc, il faut quelque part une coordination, sans quoi le système n'est pas cohérent. Faire confiance à la coordination internationale, au G20 ou ailleurs, ou au Fonds monétaire international, on a le droit de l'espérer. Est-ce qu'on a le droit d'y croire? J'en suis moins sûr. Ensuite, il y a le micro et le macro prudentiel. Il y a aussi beaucoup de raisons de penser qu'il faut une coordination au niveau du micro et du macro prudentiel. Donc, Pierre, un peu dans son rôle, il dit ça avance bien, on arrive à se mettre d'accord sur plein de choses. Sauf que Bâle II n'est toujours pas appliqué aux États-Unis, quoi. Donc, on espère qu'ils vont appliquer Bâle III. Mais...
Il y a un accord sur Bâle
III. Oui, voilà, oui, ok.
Signé par les Américains.
D'accord. La question, c'est ensuite la mise en place. Hein. Okay. Donc, sur le micro-prudentiel, voilà. Sur le macro-prudentiel, il y a également de profondes raisons de coordonner. D'ailleurs, cette histoire de moduler les fonds propres en fonction de la conjoncture, ça date pas d'hier, ça date pas de la crise. Il y a 5 ans ou 6 ans, on disait déjà, la bonne solution, c'est évidemment pour éviter la procyclicité, et notamment la procyclicité de la réglementation, la bonne solution, ça consiste à moduler les fonds propres en fonction de la conjoncture ou en fonction de l'évolution du crédit. Sauf que, et alors pourquoi on ne le faisait pas? Parce qu'on avait peur que certains pays ou certaines zones se servent de cette possibilité de moduler les fonds propres pour faire des distorsions de concurrence, pour avantager leur système bancaire. Donc il y a un grand avantage à faire la coordination du macro-prudentiel. Cela dit, est-ce qu'on peut y croire? Alors, quand on voit par exemple les banquiers français qui disent « attention, méfions-nous » parce que les Américains, qui n'ont pas du tout le même système financier que nous, qui n'ont pas du tout la même structure, le même système bancaire que nous, vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, par exemple avec l'histoire du « too big to fail », alors que le problème, comme je l'ai dit, ne se pose évidemment pas en France, qui est quand même le pays où le système bancaire est le plus concentré, après les chiffres du FMI. Donc, il y a des systèmes bancaires et des systèmes financiers qui sont extrêmement hétérogènes entre les différentes zones. C'est évident qu'il va y avoir une bagarre pour savoir quel est celui qui va prendre le dessus, en tout cas, quel est celui qui va essayer de se donner les moyens de garder une place financière importante. Et donc, je ne crois pas là non plus à l'idée d'une... possible coordination sur ces questions qui pourtant le méritent tout à fait.
Merci Jean-Paul Paulin. Alors, on ne va pas faire de transition, on va tout de suite passer aux questions de manière à respecter l'emploi du temps. Alors, question.
Devant. C'est toujours la première question.
Côté difficile.
Voilà, Arnaud Arislure, je suis ingénieur en physique nucléaire. Je m'intéresse depuis 15 ans à la politique monétaire, pour des raisons un peu aléatoires. Alors, ma question concernera les nouveaux instruments de politique monétaire dans l'optique de réguler le prix des actifs. Parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps déjà, quand j'ai vu les bulles immobilières apparaître, parce qu'il me semble aussi qu'il y a un problème de justice sociale dans le fait que, lorsque les prix augmentent de 100% en quelques années, il y a des générations qui n'ont plus accès à l'accession à la propriété. Alors, en réfléchissant...
Oui. Question pour...
oui, ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser comme instrument de politique monétaire les taux à terme? C'est-à-dire, je me suis basé en fait sur la théorie économique. Arrault et Debreu considèrent qu'une économie de marché fonctionne optimalement avec des marchés à terme pour tous les biens et services. Alors sans aller jusque-là, pourquoi ne pas le proposer pour l'immobilier? Parce que je me suis rendu compte que
vous avez posé la question, on va demander aux gens de répondre, parce que si vous faites le commentaire, ça risque d'être long. Vous pouvez rendre le micro, parce que j'ai toujours un problème de...
Peut-être le lien marche.
Ah bon,
voilà. Écoutez, moi je considère que dans une économie de marché, on n'a pas à réguler les prix. Donc, c'est sûrement pas le rôle des banques centrales de faire le prix de l'immobilier. De même que tout à l'heure, je disais, il n'y a aucune raison... pour que la banque centrale régule tous les taux d'intérêt, toute la gamme des taux d'intérêt, sans quoi effectivement on administre tout. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un problème d'inégalité intergénérationnelle, il y en a là-dessus, puis il y en a sur d'autres, mais en tout cas, ce n'est pas le rôle de la politique monétaire de régler ce problème. Si vous voulez régler le problème de l'inégalité intergénérationnelle, il y a d'autres instruments. Il y a la fiscalité, il y a des redistributions en tout genre, il y a les retraites, etc. Mais vous ne le réglez pas par la politique monétaire.
Non, pas de commentaire.
On fera
une autre question.
Juste un point. Moi, je serais un petit peu moins catégorique. Ce qu'on regarde, ce qu'il faut regarder quand même, je comprends parfaitement l'argument, je ne crois pas que ce soit la politique monétaire stricto sensu qui puisse régler ça. En revanche, on a bien ouvert l'idée que la politique macroprudentielle pouvait choisir un certain nombre d'indicateurs qui pouvaient montrer qu'à un moment donné, il y a vraiment un dysfonctionnement du marché de l'immobilier par rapport à un certain nombre d'indicateurs qui peut être le taux d'affordabilité, comme on est en anglais, qui peut être le taux de solvabilité, qui peut être le income to value ratio, qui peut être le rapport entre le prix sous-jacent et le prix des loyers, etc. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs, effectivement, qui permettent quand même, qui permettront, je pense, plus dans l'avenir qu'ils ne l'ont fait dans le passé, de voir qu'on est quand même dans des zones où il y a quelque chose d'un tout petit peu anormal qui peut se passer, où peut-être on peut intervenir, certainement pas avec le taux d'intérêt à très court terme, mais avec les nouveaux instruments macroprudentiels qui restent à définir.
Oui, mais parce que tu as autre chose dans la tête, tu as la stabilité dans la tête. Hein.
Je crois qu'on peut remercier nos intervenants pour la clarté de leur activité, leur intervention. Merci.